bonsoir, merci d'être venu. Ce soir pluvieux et propice à la conversation. Donc on a l'immense honneur d'accueillir ce soir Antoine Hidier. Si, c'est l'honneur pour moi, pour nous hein, quand même.
Et bonsoir à toutes et à tous.
Je vais me présenter rapidement, puis je vais présenter l'auteur et puis le livre. Puis je vais commencer aussi l'objectif c'est d'avoir une conversation avec le public. Je vais commencer à lui poser quelques questions et puis à la fin on va ouvrir à tout le monde. Donc je vous invite à prendre des notes et noter vos questions pour qu'on puisse revenir vers vous. Tout à l'heure. Donc moi, je suis Michael Stambolis-Rustoffer, je suis sociologue et maître de conférences en études américaines à l'Université Bordeaux-Montaigne, spécialiste des questions de genre, sexualité et de droit, en comparant la France et les États-Unis. Et notre invité de ce soir est Antoine Hidier, qui est docteur en sociologie également et directeur des études et de la recherche à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Il a une bibliographie qui est déjà très impressionnante. Il a notamment récemment sorti une biographie chez Fayard, sortie en 2017, Les vies de Guy Okangem, issue de son travail de thèse sur cet écrivain, philosophe et militant homosexuel, qui a contribué en France aux conceptions de la subjectivité queer bien avant que ce soit quelque chose connu aujourd'hui. Donc Guy Okangem, c'était quelqu'un d'avant-gardiste et qui pâtit quand même d'un manque de reconnaissance nationale et internationale de ce travail militant et scientifique. Donc le travail d'Antoine sur la vie et la pensée de Guy Okangem permet de pallier ce manque. Antoine est également auteur du livre « Les alinéas au placard, l'abrogation du délit d'homosexualité 1977-1982 » aux éditions Cartouche en 2013. Enfin, présageant un peu le livre que nous allons discuter ce soir, il a publié déjà en 2012 chez Brochet « Dissidence rose ». Fragment de vie homosexuelle à Lyon dans les années 70, qui met à profit les archives de la vie gay de Lyon. Donc, le livre que vous avez donc devant vous et qui est en vente derrière s'intitule « Archives des mouvements LGBT+, une histoire de lutte de 1890 à nos jours ». Et il faut dire qu'il s'agit d'un beau livre. Alors, un beau livre dans tous les sens du terme, c'est un format beau, à être mis en valeur et non pas caché quelque part sur une bibliographie. Beau, car il travaille à plusieurs niveaux. Donc, il réunit un travail d'archives impressionnant, varié et très large dans le temps, commençant dans les années 1890 jusqu'à nos jours, mettant en scène des images, des lettres, des publicités, des extraits médiatiques, des images pornographiques, des scènes de lutte et de manifestations, et des clichés de moments volés de plaisir et de divertissement. Avec un texte d'introduction, Antoine décrit les enjeux et les justifications de ce livre et explique l'importance spécifique de la conservation et de l'exploitation des archives pour les personnes ayant une sexualité ou un genre marginalisé. En s'appuyant sur Didier Ribon, Raphaël Fan ou encore Guy Okangem et John Scott, il explique comment, pour nous, l'accès aux représentations des gens « comme nous », entre guillemets, dans le passé, participe à nos conceptions de nous-mêmes, mais aussi à notre capacité d'envisager et d'imaginer l'avenir et les utopies. Et ça permet également, en regardant le passé, de nous situer dans le présent. À ce propos, je trouve que ce livre réussit à ouvrir des frontières temporelles aux lecteurs pour que nous, lecteurs, se mettent à la place des personnes qui ont réussi à laisser des traces, malgré beaucoup d'obstacles, de leur vie complexe, parfois troublante, mais toujours touchante. Je me suis senti personnellement emporté en feuilletant les images, et je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à chaque étape, à chaque période du livre, y compris celle de la fin du 19e siècle, qui j'aurais été dans ces images. Est-ce que j'aurais été avec une banderole en train de manifester dans les années 60? Est-ce que j'aurais été dans une pissotière sur les quais de Lyon en train de consommer du sexe avec un homme inconnu? Est-ce que j'aurais été dans un lit atteint du sida? Enfin, à chaque fois, moi en tout cas, j'ai pas pu m'empêcher de me voir dedans. Tout ça pour dire que, dans ce sens, c'est un travail qui n'est pas du tout exhibitionniste. Au contraire, ce recueil d'archives, d'essais et de recherches nous incite à l'empathie et nous oblige à réfléchir aux traces qu'on laisse nous-mêmes aujourd'hui. En plus, ce livre permet de comprendre les enjeux politiques, sociaux et psychologiques du travail mémoriel et la politique de l'effacement des personnes LGBT qui ont toujours été des difficultés à confronter, comme par exemple l'omerta qui a longtemps entouré l'histoire de l'extermination des personnes homosexuelles pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou encore la destruction du matériel jugé obscène, ou tout simplement le manque d'aide financière et soutien institutionnel à la conservation des archives, des mouvements, des médias et des personnalités LGBT. Donc l'effort étant de supprimer les traces de notre existence pour nous faire disparaître comme réalité sociale. Et donc c'est un travail d'archéologie de faire ressortir quelque chose qui a longtemps été ignoré. Le livre se divise en 5 parties. Donc la première partie de 1890 à 1945 qui explique la surprenante visibilité des minorités sexuelles et de genre, mais quand même une visibilité naissante. La partie suivante de 1945 à 1968 explique une période de forte répression de ces personnes. La troisième partie est de 1968 à 1982, donc une période radicale de libération. Et les deux dernières parties s'ouvrent mais ne se referment pas, donc commençant en 1982, qui explique ou montre les archives de la lutte contre le sida. Et la deuxième partie de fin, c'est des archives depuis 1982. Qui explique ou qui nous fait découvrir des mouvements autour de la lutte pour la reconnaissance des couples et des familles. Chaque période du livre est accompagnée d'un texte d'introduction et d'une série de textes originaux et militants, écrits par des militantes, des chercheuses, des auteurs, et ont contribué de manière importante à leur propre manière, par leur propre livre et à d'autres endroits, aux travaux de l'histoire des personnes LGBT en France. Donc ici, leurs textes contextualisent ou approfondissent des éléments de chaque période concernée. Il y a des textes de Michael Lucy, Patrick Cardon, de Gwen Fauchois, d'Hélène Azera, de Todd Shepard, de Florence Tamagne, de Sarah Gabagnoli, et bien d'autres, c'est-à-dire un who's who des chercheurs français, chercheuses français et étrangers sur les questions LGBT en France aujourd'hui. Donc c'est quand même impressionnant aussi qu'Antoine ait réussi à faire contribuer des textes originaux de toutes ces personnes-là. Enfin, et quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, c'est que chaque image est accompagnée d'un texte explicatif assez percutant et une explication de pourquoi cette image existe, pourquoi il n'y en a pas d'autres, qui explique parfois des difficultés à avoir accès à certaines images, notamment par exemple la représentation d'images pornographiques à destination des lesbiennes, qui sont très difficiles à trouver à nos jours. En somme, ce livre édité par Antoine Hidier est un tour de force impressionnant, dont je suis très fan et que je recommande vivement. Donc moi, j'ai quelques questions pour Antoine. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de la genèse du livre, l'idée derrière, ça vient d'où ?
Ouais, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Un très grand merci, Michael, pour la présentation du livre et ce qu'on a dit. Tu as dit être touché, j'ai été touché par le fait que tu as été touché. Puis j'en profite pour remercier Mola qui a organisé cette soirée. La genèse du livre, je pourrais dire qu'elle est multiple au fond. Il y a un moment très précis qui est une commande extérieure venue de la part de la directrice des éditions textuelles, Marianne Théry, et d'une éditrice de textuelles, Bernadette Caille, qui ont l'habitude de faire des beaux livres d'histoire comme celui-ci, c'est-à-dire de réunir sur une thématique donnée un ensemble de documents historiques, de réunir des archives pour les donner à voir à des chercheurs. Et Marianne et Bernadette elles-mêmes réagissaient au film 120 battements par minute de Robin Campillo qui retrace l'histoire d'Act Up qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant. Film qui avait provoqué un très grand engouement bien au-delà des personnes ou des communautés, on va dire biographiquement concernées, c'est-à-dire la communauté homosexuelle, la communauté de la lutte pour le sida. Mais au contraire, le film avait ouvert toute une discussion et avait notamment contribué à relancer une discussion qui est présente en France depuis maintenant 30 ou 40 ans sur la création de centres d'archives LGBT, de centres militants ou en lien avec le militantisme, qui visent à réunir des archives des luttes lesbiennes, homosexuelles, trans et bien d'autres. Textuel s'est dit qu'il y avait là un sujet à travailler et qu'au fond, aucun livre n'avait été fait, aucun beau livre n'avait été fait sur ces questions. Mais je crois que la genèse, pour moi, à la fois, elle est dans cette demande faite par Textuel, mais je crois que c'est quelque chose de plus profond, me semble-t-il, qui est, je crois, une préoccupation qui est présente depuis le début de mes travaux et depuis le moment où je pratique un peu la recherche historique. C'est vrai que tu as rappelé que mon tout premier livre était un livre déjà d'archives, un travail sur Lyon, sur la vie homosexuelle à Lyon dans les années 1970. Et déjà, la publication qui était issue de ce travail donnait à voir un certain nombre de documents. Et en fait, déjà à l'époque, il y avait plusieurs choses qui, je crois, sont toujours là. Je pense déjà une émotion très forte quand vous êtes chercheur ou quand vous êtes amené à consulter des archives, ou un moment vous ouvrez un carton poussiéreux, vous fouillez parmi des dossiers, et soudain vous avez un document qui vous bouleverse. Alors vous avez pu passer 3 heures à consulter des trucs qui vous ont ennuyé à mourir, qui vous ont rien fait, et d'un seul coup il y a quelque chose qui provoque chez vous une émotion très forte. Parce que, et moi je m'en rappelle de ces premiers moments-là, c'est de tomber, je sais pas, aux archives départementales de Lyon, tomber sur un rapport de police qui décrit l'arrestation en 1973 dans un club homosexuel d'un certain nombre de personnes avec le nom, les interrogatoires, etc. Mais ça pourrait être aussi un journal lesbien lyonnais, enfin des choses comme ça. Et d'un seul coup, ce document, en tout cas chez moi, provoque quelque chose, provoque une émotion, un tressaillement, l'impression que dans ce moment-là qui est contemporain, se produit une rencontre immédiate avec le passé et que le passé s'offre à nous, apparaît là devant nos yeux et dans une matérialité très forte. C'est-à-dire qu'on peut toucher un document qui appartient à plusieurs temporalités, à la fois la temporalité qui est la nôtre au moment où on lit ce document, 2012, 2018, et puis la temporalité du moment où il est produit. Et au-delà de la temporalité, vous avez des fragments de vie qui se présentent à vous. Et notamment dans le cas qui m'intéresse, de vie minoritaire, de vie de minoritaire sexuelle. Et en même temps, ce sentiment est déjà pas du tout personnel. Un certain nombre de personnes en ont parlé. Il y a un très beau livre qui est le livre d'Arlette Farge qui s'appelle Le goût de l'archive, qui parle elle-même des sentiments d'Arlette Farge quand elle découvre des lettres de cachet dans les archives de la Bastille. Michel Foucault aussi a fait un très très beau texte qui s'appelle La vie des hommes infâmes, où il parle de cette émotion, de ce tressaillement, le même tressaillement, je crois, et de Foucault, et de comment aussi réussir à le dépasser, et comment réussir à faire de l'émotion à la fois un sentiment créateur, mais aussi de se défier de cette émotion, de se défier de ce sentiment d'immédiateté qu'on a avec le passé. Parce qu'il est évident que malgré l'identification, malgré ce lien qui se crée soudainement avec ces vies oubliées, et que d'un seul coup, des vies oubliées qu'on croit remettre au goût du jour, ce lien d'identification est faux. Ou en tout cas, il n'est pas tout à fait exact. Et que donc, de là, un certain nombre de problèmes théoriques et des problèmes politiques se posent. Voilà, moi il y avait ces sentiments, ces choses-là qui me donnaient envie que j'avais envie de travailler. Aussi des choses, deux autres choses. D'une part, peut-être une frustration ou la conscience d'un problème. Quand vous êtes historien, quand vous faites des travaux historiques, des recherches historiques, vous passez votre journée avec des documents d'archives. Et en fait, vous les donnez très peu à voir à vos lecteurs. C'est-à-dire, vous les citez, vous les commentez, vous les mentionnez, mais vous n'en donnez à vos lecteurs que la médiation que vous vous en faites. C'est-à-dire, à la rigueur, vous le transcrivez, à la rigueur, vous dites « Ah, bah, dans telle revue ou dans telle boîte d'archives, on trouve ceci. » Mais le lecteur, lui, n'a jamais accès, ou très rarement accès, aux documents en tant que tel. Et moi, c'est quelque chose qui m'importe aussi de... peut-être pour pouvoir permettre de juger sur pièce, aussi pour montrer que un document, moi j'en fais un usage, mais qu'en fait quelqu'un d'autre pourrait en faire un autre usage. Et il y a comme ça un souci aussi de livrer le document. Et puis, dernière chose, c'est que tout le débat sur les archives LGBT me semble très important et fondamental aujourd'hui de poser la question des archives, de qui archive, de comment archive, de tous les rapports de domination, tous les rapports de violence, toutes les oppressions qui sont éventuellement reproduites dans les politiques d'archivage, dans l'acte d'archiver, et toutes les politiques de résistance qu'il est possible, ou les contre-politiques qu'on peut opposer aux gestes d'archiver. Dans le sens où archiver, et pour moi, il y a un geste au fond d'une très très grande violence, puisque archiver, c'est décider que quelque chose doit échapper à la destruction. Quelque chose mérite d'être conservé, mérite de transcender le temps qui passe, mérite d'être conservé, d'être rangé dans des conditions particulières qui font qu'on s'assure que ça ne sera pas détruit, ça ne sera pas abîmé, qu'on empêche, ou qu'en tout cas on prévoit un certain nombre de règles pour sa consultation, etc. Donc de considérer à un moment que quelque chose mérite d'être sorti du flux ordinaire des choses et de la matérialité des choses. Mais au moment où on décide d'archiver quelque chose, il y a tout ce qu'on n'archive pas. Mmh. Il y a ce qu'on juge digne d'être archivé et ce qu'on juge indigne d'être archivé. Et notamment, toutes les archives des minoritaires sexuels, des homosexuels, mais pas seulement, ne sont pas archivées. Donc à un moment, il y a eu cette ligne de partage qui reproduit dans l'espace de l'histoire et dans l'espace archivistique, la domination qui pèse au quotidien sur les minoritaires sexuels.
Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ces dominations qu'on retrouve, que tu as rencontrées en façonnant ton livre ?
Bah, je pense que c'est un sentiment largement partagé, et d'ailleurs qu'on retrouve énormément par exemple dans la littérature ou dans des témoignages, un sentiment d'être absent de l'histoire. Et que un homosexuel, mais aussi une femme, par exemple, puisque l'histoire des femmes a été aussi une des luttes issues du mouvement féministe, où les personnes racisées, une personne noire, une personne arabe, des personnes issues de l'histoire coloniale de la France, à un moment se retrouvent face à un récit historique dont ils sont absents. Et ils ont beau lire et relire l'histoire dans tous les sens, ils n'y s'y retrouvent pas. Et donc, ils perçoivent quelque chose qu'on ne perçoit pas au quotidien, c'est-à-dire le fait que l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, n'est qu'un récit qui se prétend unique, qui se prétend universel, qui se prétend neutre, qui se prétend évident, mais qui, en fait, est le récit écrit par les dominants. D'où cette nécessité d'aller interpeller ce récit qui est l'histoire pour lui proposer d'autres récits historiques possibles qui ordonneront tout à fait différemment les faits, qui rappelleront que telle date, c'est pas seulement ça, mais c'est aussi autre chose, que je sais pas, 1945, c'est à la fois la libération de la France, qui retrouve sa souveraineté, sa liberté, la République, etc. Mais c'est aussi le moment où le gouvernement républicain choisit de reconduire un article du Code pénal qui réprime l'homosexualité. Et c'est comme ça proposer une autre lecture des faits. Et pour moi, le livre s'inscrit dans cette histoire-là.
Est-ce que pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des archives ou qui ont du mal à imaginer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement comment ça marche, comment tu as procédé matériellement à la mise en place de ce livre? Où est-ce que tu as trouvé les images? Est-ce que tu as contacté des gens qui avaient accès à des archives, qui ont pu te donner accès à ce qu'elles avaient? Concrètement, ça consiste en quoi, ouais, le travail Pour ce livre, en l'occurrence.
Oui, il faut dire que du fait des précédents travaux que j'avais menés, j'avais déjà une connaissance un peu d'un certain paysage et d'un certain nombre de centres d'archives.
Ils se situent où, ces centres d'archives?
Voilà, il y a à la fois des... Le livre fait autant appel à des collections d'institutions publiques, les Archives nationales à Paris, la Bibliothèque nationale de France à Paris, le MUCEM, le Musée des civilisations et des cultures méditerranéennes à Marseille, qu'à des collections dites privées, c'est-à-dire des collections constituées par des militants homosexuels, qui depuis 20 ou 30 ans ont collecté un certain nombre de documents. Par exemple, à Paris, il y a un lieu qui s'appelle les Archives Recherche Culture Lesbienne, qui est fondé par, au début des années 80, par des groupes lesbiens pour archiver et collecter des revues, des témoignages, des photographies liées à l'histoire des lesbiennes. À Lyon, par exemple, à la Bibliothèque municipale de Lyon, il y a un fonds qui s'appelle le fonds Michel Chaumara, du nom d'une personne qui a constitué un énorme fonds qui est toujours en cours d'accroissement sur l'histoire de l'homosexualité. De même, à Marseille, un militant qui s'appelle Christian Deleuze collecte depuis 30 ans ou 40 ans des archives liées à l'histoire de l'homosexualité. Donc le livre est issu de ce travail-là, d'aller passer des heures et des heures dans ces centres d'archives et d'y consulter un très grand nombre de choses, de faire à la va-vite des séries de photos en disant « Ah, ça c'est super, ça c'est super, ça c'est super », et puis après tout brasser, tout collecter et réfléchir comment construire un récit à partir de ça.
Parlons-nous un petit peu de ces réflexions. J'imagine qu'il a dû y avoir des arbitrages parce qu'on ne peut pas tout mettre. Il a dû faire des choix. Comment tu as fait ?
Alors, il y a déjà des choses très prosaïques dont je n'avais pas idée avant de commencer à faire un livre comme ça. C'est des questions très techniques de droit de reproduction parfois pour les documents, de numériser un document. Mais ça, c'est les problèmes techniques. Les choix... Le livre se veut lisible à deux niveaux, c'est-à-dire d'être à la fois une histoire de l'homosexualité et une histoire de l'histoire de l'homosexualité, en référence à ce que je viens d'expliquer sur ces questions d'histoire et de poétique de l'histoire. Donc, mais ils voulaient aussi avant tout une histoire de l'homosexualité. Et donc, il s'agit de trouver des documents qui permettaient de refléter ou d'exprimer ou de transcrire les moments charnières de l'histoire de l'homosexualité en France, c'est-à-dire soit les principales figures politiques, littéraires ou culturelles. C'est par exemple une photo d'Oscar Wilde dédicacée à André Gide. C'est par exemple quelque chose relatif à Jean Genet ou à Monique Wittig. Il s'agissait aussi de donner à voir les principaux mouvements militants ou les principales revues. Donc par exemple le choix de donner à voir des numéros d'Arcadie ou de donner à voir des photographies d'ACT UP. Arcadie, qui est ce groupe dit homophile, qui est le seul groupe homosexuel français des années 50, années 60, qui édite une revue largement diffusée, et donc ACT UP, le groupe de lutte contre le sida. Donc il y a beaucoup comme ça de grands repères. Mmh. Après, il y a aussi des documents, c'est toujours un débat très compliqué et on s'est beaucoup pris la tête avec mon éditrice parce que il y a aussi toujours la tentation de quelque chose de beau. Et évidemment, on n'est jamais d'accord quand on dit alors, je disais, ce document est magnifique. Elle me disait, mais non, il est super moche, il faut prendre celui-là. Je disais, mais ce document ne sert à rien, il n'est pas beau, il renvoie à rien. Et du coup, de réussir à conjuguer une forme de beauté esthétique, qui est quelque chose par ailleurs d'éminemment subjectif, mais faire que le document frappe et qu'en même temps le document puisse nous dire quelque chose, qu'il ait un sens historique ou une importance historique. Mmh. Avec parfois des, par exemple, je sais pas, la photo d'Oscar Wilde est dédicacée à André Gide, donc en plus, là il y a une vraie, il y a un vrai truc dans ce document qui fait que non seulement c'est Wilde, mais en plus c'est Gide et c'est quelque chose d'un peu de personnel. Après, il y avait aussi le désir de montrer des documents inédits, mmh, des documents peu connus ou le moins connu possible, de surprendre aussi. Après, il est évident, par exemple, que le livre ne reflètera jamais toute la diversité des groupes homosexuels dans toute la France. Et alors, par exemple, je crois qu'il n'y a rien relatif à Bordeaux, comme beaucoup d'autres villes sont absentes du livre, parce que de fait, il était impossible, en termes de pages et d'espace, de refléter la diversité des mouvements et des groupes dans toute la France. Donc il y a des choses sur Marseille, il y a des choses sur Lyon, et il y a d'autres endroits qui sont, d'autres villes qui sont moins représentées. Après, il y avait un autre souci, qui était très important, c'est la question du rapport entre les différentes composantes de ce mouvement LGBT. C'est-à-dire de veiller à ne pas reproduire dans le livre les dominations qui peuvent déjà exister à l'intérieur du mouvement, et notamment une domination masculine et une prépondérance prise par l'homosexualité masculine sur l'homosexualité féminine, donc veiller à ne pas reproduire ça, ou à ne pas reproduire une invisibilisation des revendications transgenres, comme les trans eux-mêmes s'en plaignent à l'intérieur du mouvement gays et lesbiens, et même de donner à voir, d'essayer de trouver des moyens de donner à voir ces tensions, en fait, de non seulement de ne pas les reproduire, mais de ne pas les passer sous silence. Voilà, c'est un peu comme ça que les équilibres se sont recherchés sur comment faire le choix de ces images.
C'est une responsabilité immense.
Oui, 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 ça a été très angoissant, ouais, 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 parce que oui. Ouais.
une question que j'avais, bon, tu as en partie répondu, c'est que il y a l'histoire des mouvements LGBT, c'est une histoire de lutte aussi entre les différentes parties des guéguerres ou plus. Je pense par exemple au discorde qu'on a pu voir entre Aide et ACT UP dans les années 80-90. Et bon, tu as dit, tu as essayé de montrer des débats, ce qui est plutôt réussi, je trouve. Donc voilà, mais je peux comprendre que après il y a des partis pris, et on peut pas s'empêcher non plus d'avoir son propre parti pris.
Oui, qu'il s'agit d'essayer d'objectiver, d'en avoir au moins conscience. Après, c'est vrai que le livre n'a pas été fait tout seul, dans le sens où j'avais deux éditrices, et par ailleurs il y a un ensemble de contributeurs.
Tout à fait.
Et justement, les contributeurs étaient là parce que nous avions conscience de la nécessité d'avoir des regards extérieurs dans une histoire éminemment politique et traversée de tensions. Et c'est vrai que c'est toujours une vraie question quand on fait l'histoire de mouvements politiques, puisque tout mouvement politique est traversé par des luttes internes. Et je crois que c'est avant tout par les luttes internes qu'un mouvement politique prend forme, dans la mesure où c'est par ces luttes-là, par ces discords, par ces tensions, qu'on peut comprendre quels objectifs quels inconscients, quels implicites ont traversé ces mouvements. Et moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible de donner à voir et de rappeler qu'un mouvement n'est jamais uniforme, au contraire, et que c'est par un ensemble de chaos, de soubresauts, que le mouvement existe et que son histoire se fait.
Mmh. Parle-nous un petit peu des bornages chronologiques. On commence en 1890. Pourquoi 1890 et pourquoi ensuite la façon de faire des tranches d'histoire on aurait pu imaginer de le concevoir autrement. Quelles étaient tes motivations derrière ces différents bornages chronologiques?
C'est très arbitraire. Et au fond, le livre commence en 1890. On aurait pu le commencer en 1870 ou en 1880. L'idée était de commencer à la fin du 19e siècle, puisque c'est à ce moment-là qu'apparaît l'homosexualité moderne, si on peut dire, en tout cas, comme l'a montré Michel Foucault et comme l'ont montré Michel Foucault et d'autres, le moment où un comportement social et sexuel est associé déjà à un terme, homosexuel, homosexualité, et par la psychanalyse, la psychiatrie, les sens psychiques, l'idée qu'il y a une identité derrière, qu'il n'y a pas seulement un comportement, mais une identité et une subjectivité. Donc l'idée était de partir de cette fin du 19e siècle. Après 1890, c'est tout simplement la date du plus ancien document qui est présent dans le livre. En l'occurrence, c'est cette photo de Wilde dédicacée à Gide. Si un autre document, si on avait trouvé un document qui commençait en 1880, le livre aurait commencé en 1880, ou plus tard, il aurait pu commencer plus tard. En même temps, ça faisait évidemment sens de commencer avec Wilde, Gide, dans la mesure où Wilde a tant la liberté qui s'était donnée et la flamboyance qu'il a revendiquée que la condamnation qu'il a subie ont hanté toute l'histoire de l'homosexualité. Après, c'est la même chose pour les découpages chronologiques à l'intérieur du livre. Ils ont toujours quelque chose d'arbitraire. dans le sens quand on travaille sur de l'histoire culturelle ou de l'histoire sociale, on travaille sur des mouvements de fond. Quelque chose ne commence pas à un jour précis, se termine pas à un autre moment précis. Mais on a choisi des moments charnières, des moments emblématiques. 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et justement le moment où, pour la première fois, d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, parce que c'est 42, mais le moment de pénalisation de l'homosexualité, en même temps, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et précisément, la Seconde Guerre mondiale est un moment charnière de répression, de silence de l'histoire. Après, prendre 1960, je ne sais même plus d'ailleurs si c'est 68 ou 68. 68, parce que mai 68 est évidemment un moment de rupture, et en même temps, n'est pas tout à fait que ça, un moment de rupture, puisque quand un groupe homosexuel apparaît au printemps 68 à la Sorbonne à Paris, au moment de l'occupation de la Sorbonne, les affiches de ce groupe qui s'appelle le CAPR, le Comité d'Action Pédérastique Révolutionnaire, sont aussitôt arrachées par des militants d'extrême gauche. Ce qui montre que en 68, il n'est pas encore possible qu'un groupe puisse se dire homosexuel et révolutionnaire. Donc là aussi, cette borne-là est à la fois dit quelque chose, elle correspond à quelque chose, et elle est évidemment ambiguë. 1982, c'est le début de l'épidémie du sida, et ensuite le début des années 90, c'est le moment, je crois qu'on a retenu la date du moment où une première proposition de loi est déposée à l'Assemblée nationale pour un contrat d'union civile qui est l'ancêtre du PACS. Et là aussi, c'est une date qui a possiblement une part d'arbitraire, puisqu'on aurait pu choisir 3 ans plus tôt, le moment où l'association Aide et Daniel Borio rédigent un rapport préconisant soit un contrat d'union civile, soit le mariage. Donc là aussi, la date est... Et en même temps, la date dit quelque chose. En tout cas, il était évident que le livre devait se découper en 5 moments, qui sont des moments qui font sens, non seulement pour les historiens, mais même pour l'histoire de l'homosexualité, c'est-à-dire le début du XXe siècle, qui est un moment d'existence, finalement, d'une très grande visibilité, d'une très grande publicité, d'une très grande effervescence aussi, d'une vie et d'une culture, de vie et de culture homosexuelle. Les années, fin des années 40, années 50, années 60, des moments de plus forte répression, qui n'empêche qu'il existe des modalités d'expression par ailleurs. Fin des années 60, début des années 70, années 70, début des années 80, un mouvement d'expression radicale dans le sillage de 68, dans le sillage du mouvement féministe. Les années 80 et le choc de l'épidémie du sida, et depuis les années 90, un mouvement dominant qui est porté sur avant tout des revendications juridiques et une transformation des structures de la conjugalité, de la famille, de la parentalité, et l'émergence de multiples mouvements à l'intérieur du mouvement.
Est-ce que, quand tu as écrit ton livre, tu as pensé à l'effet que ça allait avoir sur des jeunes ?
Pas du tout.
Je dis ça parce que moi, je me rappelle un livre... En lisant ton livre, ça m'a beaucoup fait penser... et c'est pas surprenant parce qu'on comprend la généalogie intellectuelle, mais le dictionnaire des cultures gays et lesbiennes édité par Didier Ribon et d'autres, qui est sorti en 2000 et quelques, je l'avais noté, 2002 je crois. Bon, à l'époque, j'étais jeune, hein. Bon, je le suis encore un peu, mais... Et ce dictionnaire m'a beaucoup marqué. C'était un beau dictionnaire et je l'avais sur ma bibliothèque et je le consultais régulièrement, justement, parce que ça me permettait de me mettre dans une chronologie. Et je me suis dit, ce livre-là, ça pourrait avoir un effet similaire sur d'autres gens.
Ce qui est un très beau compliment. Merci. C'est vrai que le dictionnaire qu'avait fait Didier Ribon est un livre très important. Et moi, je le relis régulièrement et je redécouvre des pépites. En fait, moi, mais pas du tout, pour répondre à ta question... Pendant la période où je faisais ce livre, Je ne cessais de répéter à mes éditrices, mais de toute façon, je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire ce livre, ça ne sert à rien. Il n'y a que des choses que tout le monde sait, on est en train, d'enfoncer des portes ouvertes, des évidences. Et le lendemain, le premier rendez-vous, j'ai déjeuné avec un ami qui m'a dit « Mais tu dis vraiment des conneries, ce livre-là, on l'attend depuis des années, il faut le faire, moi je n'ai jamais vu ça et tout. » Je lui ai dit « Bon, peut-être. » Et du coup, c'est lui qui m'a poussé à dire oui. Mais après, j'en suis revenu à cette idée « Mais en fait, ça ne sert à rien, tout ça est connu, archi connu. » Et c'est plus depuis la sortie du livre, le livre est sorti... Il y a un peu moins de 2 mois, et c'est en fait dans les rencontres, dans les discussions, que des gens me disent « Mais c'est en fait, j'ai découvert tant de choses. » Et c'est vrai que de fait, plonger dans cette histoire depuis quelques années maintenant, plein de choses pour moi étaient évidentes en fait, et donc je me rendais pas compte de ça. Et c'est plus la réception du livre même qui m'a presque réconcilié avec ce livre. Qui a été par ailleurs pénible à faire pour d'autres raisons qui sont pas très importantes, mais qui était voilà la fin du livre a été un moment compliqué et c'est cette réception là, cette réaction que tu dis et qui est partagée qui m'a fait prendre conscience après coup qu'effectivement il y avait peut-être quelque chose dans ce livre.
Très bien. Pour revenir à la question de la responsabilité immense que tu as porté. C'est une responsabilité qui est partagée, je pense, par d'autres gens qui font de la recherche sur les personnes LGBT, des personnes queer, des femmes, et aussi qui est une responsabilité ou un questionnement qui est porté par les militants aussi, c'est la politique de la respectabilité. C'est-à-dire que quand on fait une représentation, on sait que cette représentation va être interprétée et que parfois on a tendance à montrer que des aspects positifs. Que des aspects qui vont permettre de réussir sa lutte, ou etc. En tout cas, moi, je me sens confronté à ça quand je fais des entretiens auprès des personnes homosexuelles. Comment je vais parler des choses qui peuvent être vues ou mal interprétées par certains à mauvais escient pour critiquer ou pour délégitimer des gens? Est-ce que tu avais pensé aux questions de respectabilité de la représentation que tu fais des individus, des mouvements qui sont dans ton livre?
La question s'est posée à un moment... et a donné lieu à des vives discussions avec mes éditrices sur la question des représentations de la sexualité et de quelles images on mettait et est-ce qu'on met des images explicitement sexuelles ou pas. Et c'était un argument avec lequel moi je suis pas d'accord, mais que j'ai dû entendre, de dire attention à pas donner une image trop sexuelle, etc., etc. Ce qui après s'explique par aussi des questions de stratégie éditoriale, de manière dont fonctionne le champ, des choses comme ça. Je t'avoue que moi, je ne me suis pas trop posé la question, peut-être consciemment ou inconsciemment. Voilà. Et en même temps, ça, c'est du
dessin.
C'est du dessin, donc ça passe. Mais même, il y a des photos du début du siècle qui parfois, oui. peuvent prêter à toutes sortes de lectures. Donc, ouais, ça, c'est une question, évidemment, que je me suis sans doute posée inconsciemment aussi sans m'en rendre compte. C'est une bonne question, en fait. En y réfléchissant,
Parfois, c'est de l'ordre de l'inconscient. Oui. C'est des questions qu'on se pose pas forcément consciemment.
Ouais. Du coup, ça me nécessite que je repense à tout le processus de réflexion.
Sinon, j'en ai une autre.
Ouais.
Alors, là, c'est pour être l'avocat du diable, parce que souvent, les gens... qui travaillent sur ces questions, oui, alors c'est quand même communautariste tout ça. Comment tu répondrais aux gens qui taxent ce travail de communautarisme, si tu aurais envie de répondre à ça?
Je pense que là, c'est une question importante, parce que le terme communautariste ou communautarisme a toute une histoire en France.
Absolument.
Et c'est par exemple une question que je pense tu me poserais pas dans le contexte américain ou dans un contexte anglo-saxon. Puisque, au nom d'un supposé universalisme, et notamment d'un universalisme républicain, il a beaucoup été opposé, et on continue d'opposer à des mouvements minoritaires ou à des mouvements qui se constituent pour répondre à une domination, on leur oppose le fait qu'ils sont communautaristes et donc qu'ils auraient la velléité de faire sécession d'une république une et indivisible. Alors que si précisément ces mouvements existent, c'est parce que dans le cadre ce cadre républicain, ils sont discriminés ou ils sont opprimés. Et que du coup, en fait, on leur reproche ce qui a été eux-mêmes constitué contre eux. Et par exemple, dans les années 90, au moment où le mouvement LGBT reprend une certaine vigueur, c'est une attaque qui est beaucoup portée. Et par exemple, au moment où les études, ce qu'on a appelé les études de genre, les études gays et lesbiennes, les queer studies, font leur apparition à l'université française, se développent, c'est un argument qui est utilisé en disant on ne veut pas de ça à l'université parce que c'est communautariste. Ce qui est tout simplement dire, en fait, on ne veut pas que des homosexuels, des lesbiennes ou des trans travaillent sur ces questions-là. Par exemple, tu parlais de Didier Héribon tout à l'heure, quand Didier Héribon fait ce grand colloque au Centre Pompidou en 1997 avec des auteurs très importants de la théorie queer, le journal Le Monde, à l'époque, fait un papier en une pour dénoncer le communautarisme. Donc, voilà, moi, ce que je peux répondre à ce terme-là, si la question, c'est est-ce que le livre s'adresse à un public LGBT, je sais pas. Disons qu'évidemment, je pense que c'est plutôt un public LGBT qui va le lire, et qu'en même temps, il est évident qu'un public hétérosexuel sera aussi très curieux de le lire. Enfin, je le souhaite. En tout cas, un public LGBT aura peut-être quelque chose de plus fort en soi qu'il portera vers ce livre. Mais le livre ne s'adresse pas à un public en particulier. Et je crois non plus n'est pas dans une forme de révérence ou dans un attachement à un mouvement. Il est évident à mes yeux qu'il est issu des luttes ou que j'aurais pas pu mener ce travail s'il n'y avait pas eu des années de militantisme et de lutte politique. Que à mes yeux, comme le disait Foucault, un livre né des luttes a vocation à retourner aux luttes, c'est-à-dire à être pas seulement un outil intellectuel ou un outil culturel, mais aussi une arme politique, et que c'est à chaque lecteur d'y trouver quel usage il peut en faire en tant qu'arme, pas forcément le jeter sur quelqu'un, hein, parce qu'il est gros, mais plutôt de s'en servir pour penser. Après, voilà, c'est un livre avant tout qui est issu d'individus et de personnes, donc qui est inféodé à aucun mouvement. Et qui regroupe des contributeurs aux identités tous très différentes.
Alors, une dernière question avant d'ouvrir au public. Si t'avais une machine à remonter le temps et tous les moyens dont tu avais envie, est-ce qu'il y a des représentations ou des archives de groupes sous-représentés? Et tu as dit, moi, j'aurais bien voulu savoir, par exemple, ce que faisaient des bisexuels à cette époque-là, ou des lesbiennes, ou est-ce qu'il y a d'autres groupes où finalement tu n'as pas eu ce que tu aurais voulu avoir, et si on aurait pu aller dans le passé sauver des archives qui ont été détruites ou dont on ne connaît pas l'existence, est-ce qu'il y en a que tu aurais voulu sauver?
Ouais, il y a deux silences peut-être dans le livre. Le silence des années 39-45, qui est un vrai silence historiographique. La question de comment vivaient les personnes homosexuelles, lesbiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça changeait au quotidien de la vie homosexuelle? On sait, et pour cause, puisqu'il y a eu un certain nombre de combats pour que ce soit reconnu, qu'il y a eu une déportation homosexuelle, qu'il y a eu des morts. Et en même temps, on connaît un peu cette répression, mais on ne connaît pas l'autre versant. Comment des espaces de liberté, des espaces de vie s'aménageaient? Et qu'est-ce que la guerre changeait à tout ça? Qu'est-ce que la résistance changeait à tout ça? Quelle était la place de la sexualité dans la résistance? Et on a déjà très peu de travaux. Et dans le livre, il n'y a pas de document parce que je n'en ai trouvé aucun. L'autre question aussi, c'est la question de la race. Et la question L'intersection race et sexualité apparaît dans le livre que, on va dire, dans la seconde moitié du XXe siècle et encore plus à la fin du XXe siècle. Et on dit beaucoup, oui, mais en fait, il n'y a pas de chose avant de poser la question de, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qu'être noire et lesbienne dans les années 20 ou les années 50 en France? Qu'est-ce que c'est d'être arabe et homosexuel? Très peu de choses là-dessus. Est-ce qu'il y avait, par exemple, des bars dans le Paris des années 20 qui étaient à la fois des bars homosexuels, mais où se retrouvaient avant tout des personnes de couleur je ne sais pas. Et ça, c'est une vraie question de est-ce qu'on ne sait pas parce qu'il n'y en a pas eu, ou est-ce qu'on ne sait pas parce que ça a été effacé et que précisément, ça fait partie des silences et des invisibilisations qui nous restent à combattre aujourd'hui.
Une belle invitation à continuer le travail.
Exactement.
Plein à faire, plein de thèses à faire, plein de mémoires.